SBS Radio.
Sommaire, le Premier ministre australien pourrait annoncer la date des élections fédérales dès ce week-end. Et à l'occasion du 25e anniversaire du génocide rwandais, Emmanuel Macron tend la main au Rwanda. Et en Libye, l'offensive du maréchal Haftar stoppée à quelques kilomètres de Tripoli. On annonce qu'il est fort probable que le Premier ministre Scott Morrison annonce la date des élections fédérales dès ce week-end. Ces élections, donc, on souligne qu'ils se dérouleraient dans ce cas le samedi 11 mai ou le samedi suivant, soit le 18 mai. Les journaux The Sydney Morning Herald et The Age soulignent que le gouvernement dispose de près de 5 milliards de dollars supplémentaires pour tenter de s'attirer la sympathie des électeurs. Le gouvernement va annoncer en effet des fonds prévus dans le budget fédéral, allouant des dizaines de millions de dollars à des projets communautaires ou à des infrastructures telles que des voiries et des installations sportives. La date probable des élections, donc, est annoncée au moment où nos confrères de News Corp ont publié une enquête d'opinion qui décrit le Premier ministre Scott Morrison et son rival Bill Shorten, tous deux comme arrogants, trop sûrs d'eux-mêmes et peu crédibles. Et toujours au sujet des élections fédérales, la candidate indépendante, néanmoins de très grande renommée, qui compte se présenter contre l'ancien Premier ministre Tony Abbott dans la circonscription de Warringah, se dit s'attendre à une campagne féroce et où tous les coups seront permis. L'ancienne sportive olympique et juriste Zali Stegall dit qu'une campagne sans merci s'inscrit bien dans le style de Tony Abbott. Tony Abbott a tenu cette circonscription de Warringah depuis 1994. Mais Mme Stegall estime que M. Abbott joue un rôle néfaste pour la réélection du gouvernement actuel. Mme Stegall ajoute également qu'à son avis, toute une génération de politiciens ne savent plus ce qu'ils font. Et selon elle, toujours, les politiciens jouent uniquement sur la peur et ne proposent rien de concret aux électeurs. Les ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 nations se sont réunis hier en France. Et en marge de cette réunion, ils ont exprimé l'importance de défendre la démocratie contre les ingérences extérieures. Étaient présents dans cette rencontre les ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, du Japon, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, s'était fait représenter par un de ses adjoints. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a déclaré que les démocraties doivent se doter aujourd'hui des moyens pour combattre de nouvelles menaces liées aux avancées technologiques.
Et en réponse aux nouvelles menaces, nous aborderons les moyens de renforcer.
In response to new threats, we will touch on ways to reinforce our democracies in the face of technological revolution and the development of means of interference. Because a democracy must be capable of respecting freedom of expression while preventing attempts of interference, curbing obstructions to the freedom of the press, and at the same time, regulating manipulation of information.
Et les propos du ministre français des Affaires étrangères font écho aux déclarations de son homologue canadien qui se dit inquiet de la possible ingérence russe dans les élections générales canadiennes prévues pour le mois d'octobre prochain. Et en France, toujours, il y a 2 jours, le grand débat a clos ses travaux et à l'occasion donc a été donné au Premier ministre Édouard Philippe d'annoncer la suite du calendrier politique post-grand débat. On l'écoute.
Lundi, ce sera la conclusion du grand débat au sens où nous allons avoir la restitution. Tout ce qui s'est dit, quels ont été les thèmes les plus développés, quelles ont été les propositions les plus portées, que nous ont dit les Français, dans leur très grande diversité et parfois d'ailleurs dans leur très grande complexité. Ça, ce sera lundi. À partir de mardi et de mercredi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous allons commencer à dire ce que nous retenons de ce qui a été dit et comment nous envisageons le travail. Et puis le président de la République, il lui reviendra d'indiquer les propositions, les orientations et l'essentiel de ce que le gouvernement fera ensuite, mettra en œuvre pour répondre aux attentes des Français.
Et on reste en France où le verdict est tombé hier. En effet, la cour d'assises d'Aix-en-Provence a rendu son verdict dans l'affaire dite Air Cocaïne après une semaine de procès. Une décision qui a été jugée comme sévère puisque la cour a condamné 7 des 9 accusés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Précision Franck Alexandre pour RFI.
Il aura fallu 11 heures aux 5 magistrats professionnels de la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour rendre leur délibéré et finalement estimer que 7 des 9 accusés avaient bien participé à ce trafic de drogue entre la République dominicaine et le sud de la France. Bruno Odo et Pascal Fauré, deux anciens pilotes militaires français aux commandes du jet privé lesté de 700 kilos de cocaïne, écopent chacun de 6 ans de détention. C'est un scandale, c'est politique, saloperie, il n'y a pas de justice. Ont hurlé leurs proches à l'annonce du verdict. L'affaire avait éclaté en mars 2013, lorsque le Falcon, rempli de cocaïne, avait été intercepté à l'aéroport de Punta Cana, alors qu'il s'apprêtait à décoller vers la France. Le commanditaire du trafic, Ali Bouchareb, écope, lui, de 18 ans de prison. Son homme à tout faire, Franck Collin, qui affirmait être un agent infiltré et condamné à 12 ans de réclusion. Quant à l'ancien douanier français, peu regardant, François-Xavier Manchet, lui, est condamné à 5 ans de prison.
Et à la veille des commémorations des 25 ans du génocide rwandais, le président Emmanuel Macron tente la désescalade dans les relations entre Paris et Kigali. Emmanuel Macron a reçu hier matin à l'Élysée des représentants d'une association de soutien aux rescapés. Il a ensuite annoncé la mise en place d'un comité d'historiens pour étudier les archives françaises, le rôle de la France sur le génocide au Rwanda. Il s'agit d'une promesse faite par Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame l'année dernière. Compte rendu de cette journée d'hier et des décisions prises avec Alexandra Branjon pour RFI.
Le chef de l'État a tout d'abord annoncé la création d'une commission qui étudiera le rôle et l'engagement de la France durant le génocide. Une commission composée de 9 historiens et chercheurs qui auront accès à l'ensemble des archives françaises entre 1990 et 1994. Il s'agit d'une promesse faite par le président Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre l'année dernière avec son homologue rwandais Paul Kagame. Le rôle de la France avant et pendant le génocide fait polémique depuis 25 ans. Le régime de Kigali accusant Paris d'avoir assisté le gouvernement de l'époque. Ces archives ne seront toutefois pas ouvertes au public, mais uniquement aux chercheurs de cette commission qui devront remettre leur rapport dans un délai de 2 ans. Le chef de l'État a également annoncé que les moyens, notamment judiciaires, pour poursuivre les génocidaires présumés en France, seraient renforcés. Première réaction, celle d'Ibuka, l'association des rescapés du génocide. C'est une ouverture, un premier pas vers la vérité. C'est la première fois que nous sommes reçus par le président français.
Et toujours concernant le génocide rwandais, les différentes communautés rwandaises d'Australie vont commémorer les 25 ans de ce drame. C'est samedi 6 avril et dimanche 7 avril. La communauté rwandaise du Queensland et les Amis du Rwanda, politiciens, membres du monde académique et associatif et membres des différentes communautés, se recueilleront au sein du Parlement du Queensland à Brisbane ce samedi. La communauté rwandaise de Nouvelle-Galles du Sud, quant à elle, tiendra ses commémorations demain à Sydney, avec la présence de nombreux dignitaires et avec le soutien pour la deuxième année d'affilée du Musée juif de Sydney. Et à Hobart, demain, se tiendra une cérémonie organisée, quant à elle, par la diaspora rwandaise d'Australie. Et on fait un grand saut sur le continent africain toujours, donc en Libye, dans le nord du continent, où des violents affrontements ont opposé hier les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et le siège du gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj, un gouvernement d'union reconnu quant à lui par la communauté internationale. L'offensive semble contenue à quelques kilomètres de la capitale libyenne, mais cela ne manque pas de susciter l'inquiétude de l'ONU qui craint une flambée de violence généralisée. Compte rendu, Sébastien Duhamel pour RFI.
Quand le Conseil de sécurité se réunit en urgence ce soir à New York, Antonio Guterres, lui, est reparti de Libye profondément inquiet et le cœur lourd, c'est ce qu'il a déclaré. Hier, il avait rencontré Fayez El-Sarraj à Tripoli. Aujourd'hui, il s'est rendu dans l'Est pour y rencontrer le maréchal Haftar et ce dernier refuse pour l'heure la solution politique. En fin d'après-midi, de violents combats étaient ainsi signalés par le gouvernement d'Union nationale dans les régions de Sougal Khamis, Al-Sae et Sougal Sabt. C'est une zone agricole à moins de 50 km au sud de Tripoli. En face, les forces d'Haftar affirment avoir pris possession de l'aéroport international. Ils disent être à 20 km de la ville seulement. Le porte-parole assure que demain, ils en seront aux portes. L'ANL annonce par ailleurs qu'un chef de milice important, un chef de la défense de Tripoli, aurait été blessé au combat. Il s'agirait d'Ernewal Kekli. Information difficile à vérifier à l'heure où nous parlons, mais ce qui est certain, c'est que la situation sur le terrain est mouvante. Une situation d'ailleurs très observée par la communauté internationale. Ce soir, les ministres des Affaires étrangères du G7, les 7 pays les plus industrialisés, appellent à stopper tout mouvement militaire vers Tripoli.
Et le propriétaire, donc on fait un petit retour en Australie, où le propriétaire d'un entrepôt de recyclage de déchets, un entrepôt qui est en feu dans un quartier de Melbourne, est aussi propriétaire de 6 autres entrepôts stockant des produits toxiques. L'incendie dans l'installation industrielle à Campbellfield, à 16 km au nord-est de Melbourne, a éclaté hier matin et rejette des fumées toxiques au-dessus de la ville. Cet incendie a été maîtrisé dès hier, mais il devrait continuer de brûler pendant plusieurs jours. Cette installation qui est en feu appartient au groupe Bradbury Industrial Services et on souligne qu'au moment où l'incendie a éclaté, il contenait 3 fois plus de produits chimiques qu'il ne lui était autorisé. De plus, la licence d'opération de ce groupe avait été révoquée le mois dernier. Et selon nos confrères du journal The Edge, des stockages illicites de produits chimiques ont été retrouvés dans 4 autres sites appartenant à ce groupe. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 25 degrés, Adélaïde 22 degrés, Melbourne 20 degrés, Hobart 18 degrés, Canberra 26, Wollongong 25 degrés, Sydney 27, Newcastle 29, Brisbane 28 degrés, Cairns 30 degrés et Darwin 31 degrés. Et à la bourse, un dollar australien vous achète aujourd'hui 71 centimes de dollars US et 63 centimes d'euros. Place à présent au rappel des titres de l'actualité avant de passer au magazine des sports. Le Premier ministre australien pourrait annoncer la date des élections fédérales dès ce week-end. Et à l'occasion du 25e anniversaire du génocide rwandais, Emmanuel Macron tend la main au Rwanda. Et en Libye, l'offensive du maréchal Haftar stoppée à quelques kilomètres de Tripoli.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.